Martin, un saint comme on n'en fait plus. Amiens, janvier 336, il gèle à Pierrefendre. Martin, qui est né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, et qui est devenu soldat à 15 ans, sert en Gaule. À la porte de la cité, il rencontre un pauvre, nu. Martin, chrétien convaincu, a déjà distribué tout ce qu'il a en cours de route. Il ne lui reste que son manteau. Il se saisit alors de son épée et coupe son vêtement chaud en deux, donnant aux pauvres de quoi se vêtir. Et l'autre moitié alors? Il ne pouvait pas la donner? Eh non, elle appartenait à l'armée romaine dont il faisait partie. Généreux, Martin, pas voleur. La nuit même, le Christ lui apparaît en songe. C'était lui, le pauvre nu, qui l'a secouru. L'affaire se sait, et voilà Martin, déjà vénéré comme un saint. Martin est baptisé à Amiens. Il s'emploie à persuader les paysans que leurs arbres sacrés et leurs temples doivent être remplacés par le culte chrétien. Ceux-ci, un jour, pour se venger, l'attachent à un sapin. En face, ils en abattent un autre qui doit logiquement écraser notre saint ficelé. Mais miracle, le sapin coupé vacille, se redresse et va tomber de l'autre côté. Cela se sait encore, et voilà Martin presque divinisé. Mais un jour, à Cande, au confluent de la Vienne et de la Loire, Martin meurt comme tout le monde. Les moines de Ligugé et ceux de Marmoutier, ville où il avait fondé des monastères, se disputent sa dépouille. Ce sont les Tourangeaux qui l'emportent, Martin ayant été évêque de Tours. Cela se déroule au début de novembre 397. Alors survient un phénomène étonnant. Au passage de la dépouille de Martin, les arbres reverdissent, des roses s'épanouissent, la nature refleurit tout à coup. Et chaque année, la nature se souvient de ce miracle et nous offre l'été de la Saint-Martin. On inhuma Martin le 11 novembre et on prit soin d'installer sa cape, la moitié restante et romaine, du manteau donné aux pauvres, dans un sanctuaire qu'on nomma tout simplement Capella. Et puis le mot Capella a donné naissance au mot chapelle, tout simplement.
Qui aurait pu penser en 407 que la paisible frontière alpine allait être franchie en peu de temps par un peuple prestigieux, organisé, venu au IIe siècle des côtes de la Baltique et qui avait fondé au IVe siècle un royaume quasi nomade dans les steppes d'Ukraine? Personne. Et pourtant, le voici, ce peuple des Visigoths, converti à une forme de christianisme qui nie la divinité du Christ, pour eux c'est un homme comme un autre, l'arianisme, fondé par Arius, prêtre d'Alexandrie au IIIe siècle. Les Visigoths ont été chassés de leur steppe par les Huns en 375. Les voici donc en Italie. Ils arrivent à Rome en 410, pillent consciencieusement la ville, massacrent presque tout le monde. Décidément. Pendant ce temps, l'apprenant, les Francs-Saliens en profitent pour se rapprocher, occupent la partie occidentale de la Belgique et les Francs ripuaires s'installent sur la rive gauche du Rhin. En 412, les Visigoths décident de franchir de nouveau les Alpes, mais pour visiter le sud de la Gaule. Ils dévastent le Languedoc et l'Aquitaine, prennent Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Les voici bien installés dans tout le sud de la France. En 416, ils concluent un accord avec Rome dont ils reconnaissent la souveraineté. Mais les rapports avec les Gallo-Romains vont se tendre. Et bien des malheurs vont s'abattre sur la Gaule parce que les uns disent « Si, le Christ est de nature divine !» Et les autres disent « Non, le Christ n'est pas de nature divine !»